Panorama Économie.
Bienvenue à la demi-heure consacrée à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Le titre pour commencer, après 13 années consécutives de hausse, le prix de l'once d'or est en baisse sur le marché international. Le prix de l'once est passé de 1600 à 1400 voire 1300 dollars américains. Mais qu'est-ce qui explique cette chute du métal jaune et quel enjeu pour la RDC, pays producteur du cuivre? Élément de réponse dans votre magazine. Le gouvernement congolais interdit l'exportation des concentrés de minerais. Il propose aux miniers de recourir aux entreprises de transformation au pays et à l'étranger. Après la société civile, la FEC a organisé à son tour un forum cette semaine à Kinshasa, forum consacré au projet de révision du code minier de la RDC pour la Fédération des entreprises du Congo. La révision de ce code tel que voulu par le gouvernement pourrait réduire l'attraction des investisseurs en RDC. La rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Les infos sont commentées et analysées par Léonide Moupepele. Il est ingénieur civil des mines et ingénieur civil de la métallurgie. Monsieur Léonide Moupepele, vous êtes bienvenu au studio de Radio Okapi.
Bonjour Daniel.
Et à vous, chers auditeurs, vous êtes les bienvenus devant ce micro, Daniel Tampinzoni et Paul Matindo, pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique de la semaine. Bienvenue à Panorama Économique.
Panorama Économique, le dossier.
Ce sera un magazine essentiellement mine. Nous allons parler essentiellement de mine dans ce numéro de Panorama Économique. Premier dossier, nous commençons avec le prix de l'or qui est en baisse sur le marché international.
Oui Daniel, le prix de l'once est passé de 1600 à 1400 voire 1300 dollars. Cette baisse intervient après 13 années consécutives de maintien à la hausse. La chute a commencé début avril courant. Mais qu'est-ce qui explique cette chute alors que l'or a toujours été considéré comme le métal de référence, la principale valeur refuge? Nous avons posé toutes ces questions à Lems Kamonia, il est analyste économique.
Il y a plusieurs facteurs qui sont évoqués. La plupart sont liés à la crise que connaissent les États. Vous savez que la plupart des États européens connaissent un problème de déficit important et ces États sont coincés pour voir dans quelle mesure réduire leur déficit. Il y a au niveau de l'Europe des taux d'intérêt qui sont négatifs pour la plupart des monnaies suite à la crise. Il y a les déficits budgétaires qui ne font que se creuser de plus en plus. Il y a aussi la dépréciation du dollar avec la création massive de dollars qui sont sur les marchés. Cela a contraint la plupart de ces États pour essayer de renflouer leurs caisses, réduire les déficits, à mettre sur les marchés des quantités importantes d'or. Cette augmentation de l'offre a provoqué directement une baisse parce que les mêmes qui en achètent plus pour en faire valeur refuge se retrouvent en train de les vendre. Donc vous avez d'un coup plus de vendeurs que d'acheteurs parce que parmi les acheteurs se trouvent même les vendeurs.
Lems Kamonia, retour au studio de Panorama Économique où nous recevons Léonide Moupepele. Je vous le présentais, ingénieur civil en mine et puis ingénieur civil en métallurgie. Monsieur Léonide, vous avez suivi ce dossier, la RDC produit de l'or et subitement sur le marché mondial, la matière est en train de perdre de sa valeur. L'analyste économique a dit ce qu'il pouvait dire et vous en tant qu'ingénieur civil en matière de mine, quel commentaire vous pouvez ajouter à ce que Lems Kamonia a dit?
Oui, merci beaucoup. Lems Kamonia a fait une bonne analyse, mais il n'a épinglé qu'un facteur qui serait à la base
de cette baisse.
Du recul du prix de l'or. Ce qu'il a dit est vrai. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays occidentaux notamment, qui sont en crise et qui sont en train d'écouler les réserves d'or. Je préfère vous dire qu'il y a actuellement dans le monde autour de 30 000 tonnes d'or qui sont stockées par les banques nationales des différents pays. Et parmi ces pays, les pays occidentaux occupent une très bonne position. Et, par exemple, je prendrai l'Allemagne qui a plus de 4 000 tonnes d'or, l'Italie qui n'en a pas moins de 3 000 tonnes d'or, l'Espagne qui nage aussi aux environs de 3 000 tonnes, la France, etc. Donc rien que ce petit club-là, nous sommes déjà au-delà de 10 000 tonnes d'or. Alors, vous savez que ce sont les pays qui, à l'exception de l'Allemagne, mais en ce qui concerne l'Italie, l'Espagne, ce sont des pays qui font face aujourd'hui à une crise profonde.
Oui.
Et donc, une façon de juguler cette crise, c'est de
c'est
pouvoir...
C'est revendre la matière, oui.
Exactement. Le deuxième facteur, c'est... je dirais une croissance de la production minière. Comme vous l'avez si bien dit, que pendant 13 ans, l'or est resté sur une tendance haussière. Je préfère vous dire qu'avant 2005, l'once d'or était à $400. Peu avant que nous arrivions au prix actuel qui est de $1400 l'once, nous étions à $2000. En moins de 10 ans, nous sommes ainsi passés de $400 l'once à $2000 l'once. Qu'est-ce que cela a eu pour effet? C'est qu'il y a un certain nombre de mines qui, à l'époque, étaient fermées pour non-rentabilité, qui ont réouvert. Et le cas du Congo, par exemple, j'ai entendu parler de Banro tout à l'heure. Banro exploite à Twangiza avec de groupes électrogènes. C'est-à-dire qu'il utilise du carburant pour pouvoir générer de l'énergie. Je préfère vous dire qu'il y a... Il y a de cela une dizaine d'années, une telle opération serait totalement suicidaire. Donc, si aujourd'hui, des mines comme Twangiza avec Banro peuvent se livrer à l'exploitation minière avec utilisation de groupes électrogènes, eh bien, il faut dire que c'est justement parce que le prix de l'or a sensiblement augmenté. Donc, cela a eu pour effet que certaines mines qui étaient fermées ont réouvert. Mm-hmm. Certains pays qui n'étaient plus présents dans l'exploitation aurifère, par exemple le cas du Congo, nous n'étions plus présents sur le plan industriel. Notre production était tombée à zéro.
Oui.
La production artisanale, oui, elle est réalisée, elle est même estimée entre 15 et 30 tonnes d'or. Mais tout ça passe par la fraude. Hein. De toutes les façons, l'État ne bénéficie rien du tout. Mm-hmm. Bon, parlons de la production industrielle, nous avions totalement disparu et nous réapparaissons avec l'année passée, on a fait 2000 kilos, c'est-à-dire 2 tonnes d'or, avec des perspectives qui vont nous placer avant 2015 autour de 10-15 tonnes d'or par an. Donc tout ça, c'est dû au fait que il y a eu cette embellie de cours a entraîné beaucoup à investir dans le secteur aurifère.
Donc en deuxième lieu, il faut considérer la
Il y a eu un accroissement considérable de la production. En 2005, nous étions on produisait autour de 2000 tonnes d'or par an. Aujourd'hui, nous sommes à 2700 tonnes d'or par an. Donc, ça aussi, c'est un autre facteur.
Oui, mais si vous pouvez, cette baisse commence déjà à inquiéter les investisseurs dans ces domaines. Selon vous, quelles stratégies doivent prendre ces investisseurs?
Bon, écoutez, tous ces projets qui sont en cours chez nous, que ce soit Twangiza, que ce soit Kibali Gold Mining, quand ils ont démarré, l'or n'était pas à $2000 l'once. L'or était à $700 l'once quand ils ont démarré, même peut-être moins. Bon, c'est vrai que le fait que l'or se soit situé dans les sommets a équilibré un certain nombre de charges aussi dans leur secteur et qu'aujourd'hui, passer de 2000 à 1400, c'est très pénalisant pour eux. Mais l'une des choses qui va certainement arriver, notamment pour Twangiza, ce sera la construction, l'acquisition rapide d'une source d'énergie bon marché, notamment construire un barrage hydroélectrique, parce que je ne le vois pas en train de continuer à utiliser le groupe électrogène si le cours de l'or devait descendre en dessous de $1400 l'once.
Nous vous gardons, monsieur Léonid Moupépélé. Deuxième dossier de la semaine, le gouvernement congolais interdit toute exportation des concentrés de minerais.
Cette décision qui entre en application dans 3 mois exige aux opérateurs miniers exerçant en RDC de ne plus exporter des minerais concentrés, mais devront plutôt les transformer sur place. Conscient de l'insuffisance dans la fourniture de l'énergie électrique nécessaire à cette transformation, le gouvernement congolais a proposé aux opérateurs miniers de recourir au traitement à façon dans la transformation de leurs produits. Agathe Pona pour les détails.
Le traitement à façon donne aux opérateurs secteur minier la possibilité de faire traiter leurs concentrés auprès des usines déjà installées en RDC, moyennant paiement bien sûr, mais aussi ces opérateurs miniers ont la possibilité de faire traiter leurs produits concentrés à l'extérieur du pays. Selon le directeur de cabinet du ministre des Mines, Valérie Moukassa, si le traitement se fait à l'extérieur, il y aura un dispositif de contrôle qui devrait être mis en place entre l'administration des mines, la douane et la DGRAD pour que soit déterminée la quantité de métal contenu dans le concentré. Et c'est ce métal potentiellement contenu dans le concentré qui sera taxé par ces différents services de l'État à l'exportation. Les deux parties se sont donc convenues il y a 2 jours à Lubumbashi pour qu'à la fin du moratoire, une évaluation soit faite pour se fixer sur l'applicabilité de l'arrêté du 5 avril dernier. Notons que selon un arrêté interministériel signé le 5 avril dernier par le ministre des Mines et le ministre des Finances, un délai de 90 jours avait été accordé aux opérateurs miniers détenant des stocks de concentrés pour les évacuer. Une décision visant à apporter une plus-value aux minerais congolais qui sont exportés et qui vise ainsi l'augmentation des recettes de l'État.
Une mesure visant à ajouter de plus-value aux produits congolais avant de les exporter. Comment vous analysez cette décision du gouvernement, M. Leonid?
Oui, cette décision, normalement, devait mériter applaudissement de la part de Congolais, parce que c'est une mesure qui va dans le sens à maximiser l'impact de l'industrie minière ici chez nous. Vous devez comprendre que si vous sortez des produits qui sont des qualités médiocres, disons des concentrés qui sont allés, disons, même jusqu'à 20-30% de cuivre et 5-6% de cobalt, il n'en reste pas moins que le travail supplémentaire pour transformer ces minéraux en métal qui devrait se faire ici chez nous, ne se fait pas chez nous et va se faire ailleurs. Donc si il y a eu une mesure dans le sens à pouvoir demander qu'il y ait une transformation poussée ici chez nous, ça ne peut mériter qu'applaudissement de notre part.
Ça mérite applaudissement, M. Leonid, mais là je vois, selon l'avis du directeur du cabinet du ministre de Mines, cette transformation peut se faire au pays comme ça peut se faire à l'étranger, mais est-ce que vous ne trouvez pas là, on demande une chose et puis on ouvre une brèche pour les opérateurs miniers qui vont certainement profiter en l'absence des infrastructures, amener les produits pour les transformer à l'extérieur?
Oui, c'est pour ça qu'une telle mesure devrait être prise après concertation avec les opérateurs miniers. Donner suffisamment de temps aux opérateurs miniers locaux d'acquérir les unités de transformation requises pour pouvoir procéder à cette opération.
Est-ce que les 3 mois que le gouvernement donne, c'est suffisant?
Ce n'est pas suffisant, d'autant qu'il y a aussi, en dehors de problèmes techniques qui peuvent être liés à l'acquisition des équipements, des machines, il y a aussi le problème d'énergie. Et ça, c'est un problème qui est difficile à résoudre parce que aujourd'hui, la disponibilité énergétique pour l'ensemble de l'industrie minière katangaise est déficitaire. Donc, c'est un problème qu'il faut résoudre. C'est pour ça que j'estime que 3 mois n'est pas suffisant. Mais c'est déjà une bonne mesure qui va dans le bon sens, sauf qu'il faudra une bonne concertation entre les opérateurs qui œuvrent dans ces secteurs et l'autorité minière. Bon, je dois dire aussi que le fait de pouvoir exporter des concentrés, quelque part, pénalise gravement le Congo, parce que j'ai eu l'occasion de compulser les statistiques internationales. Vous allez vous apercevoir que la Chine, qui, pour ne prendre que l'exemple de la Chine, qui n'a pas de gisements de cobalt chez lui, et aujourd'hui parmi les plus grands producteurs de cobalt.
Comment ça
Justement parce que ce cobalt vient en termes de concentré d'alliage pauvre du Congo, et finalement c'est déclaré comme étant une production, comme étant des productions qui viennent de la Chine. Donc ces traitements en façon, c'est bien quelque part pour résoudre, pour contourner ce problème dont nous avons parlé tout à l'heure, mais il faut savoir que cela biaise énormément les statistiques, parce que les produits qui sortent de traitement en façon sont déclarés au profit des pays où sont installés
les traitements.
Exactement.
La Fédération des entreprises du Congo a organisé ce mercredi à Kinshasa un forum consacré au projet de révision du code minier de la RDC proposé par le gouvernement.
Oui, Daniel, pour la Fédération des entreprises du Congo, cette révision n'est pas opportune car le code minier de 2002 n'a jamais été appliqué. La mouture d'après révision pourrait encore réduire l'attraction des investissements en RDC. Simon Toumawaku, vice-président de la FEC en charge du secteur des mines, l'a dit à Radio Okapi.
Notre souhait en tant qu'opérateur minier, c'était que le gouvernement devait d'abord s'assurer que le code est bien appliqué. C'est important parce qu'on va se retrouver sur le même problème aussi. On aura un nouveau code qui va sortir et si on ne l'applique pas bien, on aura aussi les mêmes résultats. Donc avant de pouvoir juger de quelque chose d'une loi, il faut l'appliquer complètement et en tirer les leçons. C'est ça que nous avons toujours dit au gouvernement jusque-là. Bon, malheureusement, nous nous trouvons maintenant dans la mouvance de la révision. Allons-y. Mais nous devons dire au gouvernement qu'il fait attention sur tel point de vue parce que là, vous allez bloquer les investisseurs ou vous allez bloquer l'attraction des investissements dans notre pays.
Faire attention au régime douanier et fiscal dans le code minier de la RDC qui est soumis à la révision. Monsieur Léonide Moutoupele, vous analysez, commentez l'actualité économique avec nous. Est-ce que c'est important, il était opportun de revoir le code minier aujourd'hui par rapport à ce que dit le représentant de la FEC?
Oui, le tout dépend de l'esprit qui sous-tend, l'intention qui sous-tend la révision du code. Ouais. Si le principe est que après 10 ans d'application de ce code, on a constaté un certain nombre d'écueils qu'il faut améliorer, ça ne pose aucun problème. Mais si on pense que c'est à travers cette révisitation qu'on pourra améliorer l'impact, notamment les retombées fiscales de l'industrie minière sur notre économie, je dis niet. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositions dans le code qu'il faut revoir. Dans mon livre, l'industrie minérale congolaise.
Nous en parlons à la fin de l'émission.
Tout à fait. Oui. J'ai indiqué un certain nombre de dispositions, notamment en ce qui concerne la réqualification de certaines substances. Par exemple, pour ne citer que ceux-là, le granit et le marbre.
Vous permettez qu'on nous revienne à la fin de l'émission.
Exactement. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut impérativement revoir pour améliorer ce code. Bon, mais en ce qui concerne la fiscalité, comme l'a dit M. Toumawaku, le code actuellement n'est pas appliqué dans sa totalité. Il faudrait d'abord qu'il soit bien appliqué et dans sa totalité et correctement en ce moment-là. S'il y a des écueils, ok, on va se dire, bon, on passe à la révisitation. Mais pour l'instant, en ce qui concerne notamment la perception et le recouvrement, d'abord vous avez appris ce qui s'est passé au niveau de l'ITIER. On a été exclu parce qu'il y a, entre les déclarations des miniers et ce qui est réellement rentré, il y aurait un gap.
De 88 millions de dollars. Bon. Donc on ne sait pas justifier.
Ça, c'est de un. De deux, le problème du fisc, quand vous le regardez, l'ensemble de droits miniers dus à l'État congolais peuvent se répartir globalement en deux parties. Je dirais même trois parties. Il y a d'abord la première catégorie, celle qui est les droits qui sont liés à la surface. Donc, la superficie qui a été octroyée aux détenteurs du titre minier. Et ces droits-là se manifestent, se concrétisent notamment au travers des droits superficiels, l'impôt sur les concessions minières, etc. Ces impôts-là, normalement, sont perçus correctement. Ça ne pose pas de problème. Mais le problème se pose au niveau des impôts qui sont liés à la valeur marchande des exportations, des produits et de la production. Parce que là se trouve tout le problème. Nos services de taxation actuellement ne sont pas outillés pour pouvoir correctement calculer. Tout à l'heure, vous avez parlé de stock métal. Justement, il s'agit de ce stock métal. C'est un des paramètres qui permet de fixer la valeur à l'exportation. Et c'est là tout le problème. On a le problème pour analyser les produits à l'exportation. Donc, il y a une sous-évaluation. On a des problèmes pour appréhender à temps réel les cours des métaux. Donc, tout ça, mis ensemble, fait que finalement, on arrive à des sous-évaluations, sans compter, bien sûr, des risques de tricherie.
C'est que le problème, c'est dans ce sens-là et non dans
la... Dans ce sens-là, nous disons que si aujourd'hui, on fait une réforme structurelle de l'administration fiscale et minière, eh bien, on arrivera à des chiffres qui seront étonnamment supérieurs à ce que nous enregistrons aujourd'hui en matière de retombées fiscales.
Panorama économique, reportage.
La coopérative de négociants d'or de l'Itouri plaide pour l'implantation de comptoirs d'achat d'or en Itouri. Les trois comptoirs qui étaient implantés ont fermé leurs portes depuis un an. Cette coopération a lancé cet appel mardi à Bounia à l'issue d'une réunion de travail avec le ministre provincial de Mines. L'Itouri n'a produit que 12 kilos d'or en 2012 selon les exploitants, ce qui est insignifiant et encourage la fraude. Delvin Waïsala pour le reportage.
Le service des mines rapporte que c'est depuis 7 mois que le comptoir agréé Congo Performance de Développement a fermé ses portes suite à un cambriolage. Avant lui, ce sont les comptoirs de la Sokimo et Congo Mining qui ont fermé suite aux difficultés financières. Cette situation limite la possibilité de contrôler la sortie frauduleuse de l'or selon la Conori.
C'est très difficile même de connaître les statistiques. D'ailleurs, les négociants de Aru se plaignent. Tous les négociants de Arewara sont déplacés à Durba. Ils vendent leurs marchandises là-bas. Ils achètent de l'or de Durba à les transite avec ça directement vers l'Ouganda. Ce n'est pas la faute de négocier parce qu'on ne peut pas parler de fraude de là où il n'y a pas de comptoir.
Ces allégations sont confirmées par le Centre d'évaluation d'expertise et de certification des matières précieuses CESC.
Le comptoir agréé, c'est bien l'institution qui nous aide, nous, à bien canaliser ce que nous produisons. Le comptoir agréé aidera le circuit minier ou le secteur minier à partir du tour ici, des faire écouler tout ce que nous avons.
Selon la Conori, les bacs plantés en Itouri sont appelés à collaborer avec les comptoirs agréés qui, à leur tour, peuvent accorder des crédits remboursables aux négociants d'or qui sont regroupés en corporation. L'absence de comptoirs agréés limite aussi la possibilité des négociants d'or à obtenir des crédits. L'ONEMA Moukoua.
La BAC devrait coopérer directement avec les comptoirs, alors les négociants doivent profiter auprès des comptoirs. Parce que les négociants ne doivent pas directement attirer par la BAC, ça pourtant contacter les comptoirs. Nous sommes bloqués, pas moyen de faire autrement.
La division des mines déplore l'absence de comptoirs agréés en Itouri où opèrent plus de 200 négociants. Le ministre provincial des mines, Paulé Ondiane, qui était en mission à Bounia le week-end dernier, a déclaré que les démarches sont en cours au niveau du gouvernement provincial pour l'implantation des comptoirs d'or agréés dans certains centres.
Voilà, merci beaucoup et bon week-end à toi, Delvin Waïsala. Nous allons retrouver notre invité, Léonide Moupepele. Monsieur Léonide, un petit commentaire à placer sur ce cri d'alarme que lancent les négociants. Il n'y a plus de comptoir en Itouri, un comptoir d'achat et vente de l'or.
Oui. C'est un problème qui est général. Hein. Ce n'est pas seulement en Itouri, mais c'est sur l'ensemble du Congo. L'Itouri est particulièrement... C'est un cas alarmant dans ce sens que de l'Itouri, quand on regarde les statistiques qui sont plus ou moins des estimations pour l'instant, c'est autour des 5 tonnes d'or par an que le Congo sort de l'Itouri, et plus spécialement de la région où Sokimo est opérateur principal. Alors, dans l'ensemble, le Congo, j'ai donné une estimation d'ailleurs dans le livre, c'est entre 15 et 30 tonnes d'or que le Congo perd en production artisanale parce que tout cela va en fraude. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, notamment lors de mon passage au CEC, un effort a été fait avec le ministre de Mines pour notamment revoir à la baisse les conditions d'acquisition d'un comptoir. À l'époque, il fallait plus ou moins 70 000 $ pour pouvoir acquérir un permis d'exploitation d'un comptoir. Avec le ministre de Mines, nous sommes arrivés finalement à revoir ce prix et un arrêté a été pris pour pouvoir finalement ramener ce prix à 5 000 $. Et c'est justement suite à cela que si les artisans de l'Outaouais parlent des comptoirs, c'est précisément à la suite de cette mesure qu'il y a eu quelques comptoirs qui se sont installés, notamment à Bounia, pour pouvoir acheter l'or auprès des artisans.
Mais si aujourd'hui nous avons 5 000, ça ne marche toujours pas.
Même à 5 000, ça ne marche toujours pas. Mais il faut prendre le taureau par les cornes. Il ne faut pas laisser passer cela parce que c'est un manque à gagner énorme que la RDC concède par ce billet-là. À l'époque, c'était la Banque centrale du Congo qui avait ouvert le comptoir et qui avait même armé certains opérateurs privés qui avaient installé des comptoirs à travers la République. Et c'est ainsi que dans les années 80, on est même arrivé à avoir 4 tonnes. On est arrivé à déclarer autour de 4 tonnes d'or par an. Alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques du CEC, on n'arrive même pas à 100 kilos d'or par an.
C'est peut-être à la Banque centrale qu'il faut poser la question de savoir pourquoi elle a arrêté avec cette politique. Ben bon, comme on n'a pas tout le temps, Monsieur Léonide, vous allez permettre, alors qu'on parle de votre ouvrage, l'ouvrage que vous venez de publier, il est intitulé « L'industrie minérale congolaise, chiffres et défis ». Qu'est-ce que vous voulez dire à travers cet ouvrage?
Oui, d'abord, le titre, c'est l'industrie minérale congolaise, et ce n'est pas l'industrie minière congolaise.
Oui, l'industrie minérale congolaise.
Oui, c'est important, je voulais attirer l'attention là-dessus pour dire que, en parlant de l'industrie minérale, nous voulons couvrir tous les domaines de ressources du sous-sol congolais. Non seulement les ressources qui sont classées mines 2 par notre code minier, mais aussi les ressources qui sont en dehors qui sont gérées en dehors du secteur minier, notamment les hydrocarbures. Et là, nous pensons au pétrole, nous pensons au gaz naturel, nous pensons au charbon et au bitume. Mm-hmm. Et puis, nous parlons aussi de produits des carrières, c'est-à-dire ce qu'on appelle les matériaux de construction. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. Et lorsque nous parlons des chiffres et des filles, les chiffres, c'est généralement pour chaque substance. Non seulement nous en faisons la description sommaire pour que le Congolais sache, notamment quand on parle par exemple, allez, je prends le pyrochlore, c'est quoi, à quoi ça sert, etc. Mais aussi nous donnons la localisation, nous disons là où l'on trouve au Congo. Ouais. Nous donnons également les réserves du Congo et nous comparons les réserves congolaises aux réserves mondiales. Donc nous classons notre pays par rapport à l'échiquier mondial. Puis ensuite, nous donnons la production actuelle lorsque la substance est en production industrielle ou artisanale. Et nous situons aussi notre pays et puis nous donnons les perspectives de développement pour 2025. Voilà.
Plus avant dans les analyses, vous aviez dit que ce n'est pas la révision du code minier. La révision du code minier ne va pas avoir de retombées positives sur l'industrie minérale de la RDC. Je crois vous avoir entendu dire quelque chose.
Non. J'ai dit en ce qui concerne les retombées fiscales. Je ne crois pas que c'est ça la manie que nous avons, nous les Congolais. Lorsque ça ne marche pas dans un domaine, on croit tout de suite qu'il faut revoir les dispositions légales. Les lois en elles-mêmes, ce n'est pas elles qui produisent les résultats, mais ce sont les hommes qui font appliquer ces lois qui sont appelés à donner des résultats. Et donc, en ce qui concerne la révisitation, j'ai épinglé dans le livre un certain nombre de dispositions qui n'ont rien à voir avec la fiscalité, mais qui, par exemple, en ce qui concerne, j'ai voulu donner l'exemple du granit et du marbre qui, dans notre actuel code, sont classés comme étant des substances minières. Eh bien, moi, je propose qu'on puisse les classer dans les produits des carrières. Et là, c'est très important. En ce qui concerne les métaux rares, le Congo est producteur de métaux rares, même si ces métaux rares ne sont pas déclarés, parce que c'est des sous-produits du cuivre et du cobalt principalement. Mais ces métaux rares existaient. Et ils ont été déclarés dans le passé, après raffinage, parce que la plupart de notre cuivre à l'époque, c'était raffiné aux usines Boken, en Belgique. Eh bien, après raffinage, la Belgique déclarait ces métaux rares pour le compte de la RDC. Alors, dans notre code actuel, le mot métaux rares n'existe pas. Il faudrait qu'on introduise cette notion de métaux rares et qu'on les définisse. Alors, il y a toute une série de dispositions que j'ai épinglées dans le livre et pour lesquelles je demande une révisitation à l'occasion de la révision de l'actuel code.
Et voilà. Et comment on peut se procurer cet ouvrage et combien il coûte?
Oui, l'ouvrage, il est vendu. Il y a deux grandes librairies qui sont chargées de la distribution. Il y a d'abord l'Armatan RDC, qui est située sur Niangwe, dans la commune de Lingwala. Et puis il y a African Queen qui est située sur l'avenue du Port, mais qui a des points de distribution, notamment au Grand Hôtel, l'hôtel Memling, et même dans certaines grandes alimentations comme Anson et Frères, etc. Normalement, vous pouvez les trouver là-bas. Quant au prix, je dois vous dire que je l'ignore, mais je crois que la dernière fois, je l'ai vu autour de $80 le livre.
Ne nous reste plus qu'à vous remercier, M. Léonide Moupepele, de votre passage à Panorama économique, et surtout merci pour les analyses et les commentaires que vous avez pu apporter, et espérons vous revoir dans les jours à venir dans les studios de Panorama économique.
Merci Daniel, merci Paul, à la prochaine.
Et aussi merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accordé votre temps précieux. Bon week-end à vous tous, à l'écoute du programme de Radio Capi. Retrouvez cette émission toute la semaine sur www.radioocapi.net dans la rubrique économie. Merci de nous être fidèles.